Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il est sympathique ce jeune homme. Quand je pense qu'il va faire faillite à cause de moi. La phrase de Samuel Beckett est restée célèbre. Le jeune homme en question, c'était Jérôme Lindon, qui s'apprêtait à publier cet Irlandais alors parfaitement inconnu. Molloy paraîtra aux éditions de Minuit en 51, puis Malone meurt la même année, et puis tout Beckett au fil des années. Le jeune homme ne fit pas faillite. Il en publia d'autres, Bataille, Blanchot, Klossowski, Robe Grier, Butor, Sarraute, Claude Simon, Duras, tout ce qu'il y aura de nouveau dans le roman après-guerre. Et aussi Deleuze, Derrida, Lyotard, Lévinas, Bourdieu, les nouvelles générations, Guibert, Coltès, Echnoz et bien d'autres. À sa disparition en 2001, Jérôme Lindon avait dirigé pendant 53 ans les éditions de Minuit. « J'ai le sentiment, non d'avoir fait les choses, disait-il, mais que les choses m'ont fait. On ne sait pas d'avance, on ne prend pas de décision. » En 1994, il donnait 5 entretiens pour Avoix Nue. À l'écoute du troisième, on se souviendra que Jérôme Lindon ne fut pas seulement le grand éditeur de son temps, engagé quand il fallut l'être pendant la guerre d'Algérie, mais aussi un très jeune homme qui avait combattu le nazisme, les armes à la main. Avoix Nue, Jérôme Lindon, troisième entretien, diffusé la première fois le 19 octobre 1994 sur France Culture.
Avoix Nue. Jérôme Lindon s'entretient avec Jean-Maurice de Montrémy. Troisième entretien.
Vous l'avez dit au début de nos entretiens, Jérôme Lindon, votre enthousiasme s'adresse d'abord à la littérature. Une phrase, je le rappelle, et ça y est, vous sentez que Beckett est Beckett. Une autre phrase, et vous vous dites, voilà un écrivain intéressant. Pourtant, vous n'avez jamais, jamais dédaigné l'engagement politique. Alors, on a parlé de la résistance au début de ces entretiens. Et à l'époque de la guerre d'Algérie, vous y êtes allé très fort.
Oui, enfin, comme c'était un pis-aller. En réalité, si dans la guerre d'Algérie, les éditions de Minuit sont engagées, c'est parce que, pour des raisons très compréhensibles, et la presse et les grandes maisons d'édition ne pouvaient pas faire ce travail. C'était trop risqué.
Donc, je le rappelle, vous avez par exemple soutenu la cause d'Audin. C'est un livre de Pierre Vidal-Naquet. L'affaire Audin, c'était très grave. Un professeur communiste avait disparu. On s'était mobilisé. On avait nié le fait qu'il avait été liquidé. Vous avez également soutenu la fameuse pétition des 121 qui appelait en 1960 à l'insoumission en Algérie. C'était des risques considérables. C'est pas uniquement parce que vous étiez une petite maison.
Ben, c'était parce que les risques sont moins grands pour une petite maison, puisque, en fait, le risque qu'on court, c'est le risque de faire faillite. Alors, le risque est moins grand quand c'est une petite maison que quand c'est une grande, si vous voulez. La faillite est moins grosse. Non, je veux dire que, on peut prendre soi-même ce type de décision dans une petite maison, dans une grande, c'est très difficile. Et même, d'ailleurs, dans une petite maison, ça pose des problèmes. Je me sais que quand nous avons été en possession du manuscrit de la question d'Henri Alleg, je me suis très vite rendu compte que le risque était grand.
Oui, la question donc qui mettait en cause la torture en Algérie.
La torture en Algérie. Et que donc, si il devait y avoir un procès, celui-ci aurait lieu à Alger, que c'était à moi de rapporter la preuve des faits, alors que j'en étais bien sûr incapable, et donc que nous risquions d'être condamnés à des amendes si fortes que nous déposions notre bilan, nous n'avions pas de réserve. Et je me suis dit, bon, c'est à la rigueur un risque que je peux prendre pour moi personnellement, mais c'est vrai que c'est difficile de prendre ce risque pour les gens qui travaillent avec moi et pour les autres auteurs de la maison. Et je me suis demandé si j'allais consulter au moins mes collaborateurs dans cette affaire.
Les collaborateurs à l'époque, c'était par exemple Alain Robillier.
C'était les mêmes qu'aujourd'hui. Non, je parle des collaborateurs qui travaillaient dans la maison proprement dite, directeur commercial, chef de fabrication, que sais-je, enfin bon, secrétaire, etc. Enfin, parce que c'était eux qui, si la maison faisait faillite, se retrouvaient sur le pavé et devenaient chômeurs, ce qui était moins grave qu'aujourd'hui, parce qu'on retrouvait du travail. Je trouve que c'était des gens très compétents, mais enfin, malgré tout, c'était un sacré ennui et ils pouvaient être amenés à me demander pourquoi j'avais pris ce risque, en plus, consciemment. Finalement, je me suis dit que non, j'avais pas le droit de les consulter, car si je les consultais, il était de leur devoir de me dire de ne pas publier le livre, ce qui était normal, puisque effectivement, j'avais pas à leur demander de prendre le risque de se retrouver au chômage. Par conséquent, c'était à moi de prendre le risque tout seul, en tant que patron, et quitte à en subir les conséquences en cas d'échec, et d'encourir les reproches de ceux qui me disaient « vous n'auriez pas dû le faire ».
Donc vous avez pris une décision typiquement capitaliste, chef d'entreprise, voilà. Souverain et maître de toute chose.
Oui, c'est paradoxal. Oui, non, mais c'est vrai. Vous savez, je ne crois pas qu'on peut échapper à son statut. On ne peut pas être à la fois libre de ses décisions et se targuer de son indépendance sans aussi assumer l'ensemble des inconvénients que ça représente. C'est évident. Quand on me parle de droite et de gauche, je dis de toute façon, il n'y a pas de patron qui soit de gauche, quoi. Tous les patrons sont de droite. Par définition, ils sont patrons. Ça ne veut plus rien dire, enfin, à ce niveau-là. En tout cas, pour ce qui est de la politique, je vous dis, je ne suis pas le seul, je n'étais pas le seul en France à trouver scandaleux que l'armée française soit amenée à torturer des gens.
Mais comment ça s'est fait, disons, comment est-ce que le contact s'est établi et que vous avez pris cette décision plutôt qu'un autre ?
D'abord, il se trouve que le premier livre que nous avons publié, qui n'a pas été saisi, celui-là, c'est celui de Germaine Tillion, qui m'avait été adressé par des anciennes camarades de déportation de Germaine Tillion, qui connaissaient les éditions de Minuit, surtout par son côté résistance. Et puis, le fait que nous ayons publié Germaine Tillion a peut-être donné l'idée à Madame Allègre, quand le livre de son mari lui est parvenu, enfin les manuscrits, de nous l'apporter en pensant, sans doute à juste titre, qu'il ne pourrait pas être édité dans une grande maison pour les raisons que je vous ai dites. Parce qu'une grande maison, avec tout ce que ça comportait, pouvait beaucoup plus difficilement qu'une petite prendre le risque de disparaître.
Mais vous aviez des proches, c'est-à-dire des intellectuels, des gens proches de la politique qui vous ont conseillé ou avec qui vous avez discuté ?
Vous savez, pour savoir qu'on est contre la torture, on n'a pas besoin de conseils. Mais je vous dis encore une fois, tout le monde, il y a des tas de gens qui savent que ce n'est pas bien. Je vous le disais à propos de la littérature, finalement, c'est des choses très différentes. Et pourtant, ça revient au même. On se trouve en face du même problème. Prenez l'exemple d'Allègre. Je ne connaissais pas Henri Allègre. Supposé que je l'ai connu, je n'aurais pas connu son écriture, sa calligraphie. Et de toute façon, le manuscrit qu'on m'a apporté était tapé à la machine. Donc, savoir si Henri Allègre était bien l'auteur de ce texte et si ce qu'il disait était vrai était une chose que matériellement on ne pouvait pas vérifier. La seule raison qu'on avait de penser que ce que disait Henri Allègre était vrai et que le manuscrit par conséquent n'était pas un faux, c'était qu'il puait la vérité, si je puis dire. Et c'est comme pour Molloy, si vous voulez. On sait quand les gens mentent. Enfin, je crois qu'on peut sentir un texte, qu'il s'agisse de littérature ou qu'il s'agisse de linguistique. Je ne suis pas un spécialiste de la linguistique. Quand j'ai dit Jacobson, j'ai le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui dit vrai. Et Alex, c'était ça. Maintenant, si ça avait mal tourné, je ne serais pas là pour en parler parce qu'effectivement, on aurait fait faillite.
Est-ce que vous avez consulté vos auteurs, ceux qui étaient déjà chez vous, mais est-ce qu'ils vous ont donné leur opinion ensuite, quand c'est arrivé ?
Je ne leur ai pas demandé. Je veux dire, il y avait certainement qui pensaient, et ils avaient le droit de le penser, que j'avais tort de publier ce genre de livre. C'est évident, mais enfin, encore une fois, ça, il faut assumer ses responsabilités, comme je vous le disais, ses responsabilités de patron.
Mais ce qui est assez curieux quand on regarde l'histoire des éditions de Minuit, justement jusque dans les années 1960, c'est qu'il y a eu d'autres grands débats politiques, d'autres grands conflits, avant le problème de la torture en Algérie, sur lesquels, semble-t-il, vous n'avez pas jugé bon d'intervenir avec autant d'engagement. Il y a eu toutes les luttes entre les communistes et les démocrates chrétiens. Il y a eu l'époque où on craignait les Américains, l'arrivée de Ridgway, tous ces gens-là.
Oui, comme je vous l'ai dit,
l'affaire Kravchenko,
j'ai toujours pensé que ce n'est pas le rôle des éditeurs, notamment de notre maison, ce n'était pas son rôle de prendre parti sur la question politique. Si nous l'avons fait, bon, j'ai peut-être pas été assez explicite, comme je vous l'ai dit à l'instant. En fait, le livre avait déjà été refusé par des grandes maisons d'édition. Et d'un autre côté, aucun grand journal ne pouvait se permettre de publier la question sans être saisi. dans l'heure et avec tout ce que ça comportait. Vraiment, si nous sommes engagés de cette façon, c'est parce qu'on s'est rendu compte que nous étions les seuls qui étaient en mesure de le faire. Ensuite, il y a eu François Maspero qui a fait aussi ça, mais nous étions les deux seuls éditeurs qui l'avons fait. Et quand ça a été fini, regardez le jury, je peux vous dire que, à bien des points de vue, j'étais content que ça soit terminé, parce car ce n'était pas mon travail.
Oui, mais d'une certaine façon, depuis la guerre d'Algérie, on peut dire que vous n'êtes jamais intervenu.
Non, parce que les autres font ça très bien. Je veux dire, actuellement, regardez, on en arrive même aujourd'hui à une situation qui va encore plus loin dans ce sens, où dans l'affaire du Rwanda, par exemple, non seulement c'est pas les éditions de Minuit qui interviennent, non seulement c'est pas les partis politiques qui interviennent, c'est le gouvernement français lui-même qui fait ce qui, à mon avis, il doit faire, effectivement, et on voit pas pourquoi on protesterait pour le plaisir de protester. J'ai souvent, moi, l'impression, au contraire, si je vous le dirais entre nous, de voir des gens qui s'inventent des adversaires pour jouer les Saint-Georges. Moi, je pense que quand il n'y a pas lieu d'intervenir, nous avons une tâche, enfin, aux éditions de Minuit, en tout cas, une tâche plus importante qui est de défendre la littérature.
Il y a également eu le fameux manifeste des 121, donc, qui appelait à l'insoumission en Algérie. Là, tout de même un certain nombre de vos auteurs s'y sont engagés.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, est-ce que c'est vous qui avez
créé... J'en ai parlé, effectivement. Je veux dire, puisque le travail de dispatching et d'impression s'est fait aux éditions de Minuit, donc j'ai parlé à certains d'entre eux, mais pas à tous. Certains ont signé, à ma grande surprise. Je ne pensais même pas qu'ils signeraient. J'essayais pas de convertir les gens, moi. Je veux dire, je connaissais pas forcément les opinions politiques des uns et des autres. Et certains avaient des opinions politiques qui auraient dû les inciter à ne pas le signer, ce manifeste, et ils l'ont fait, c'est très bien.
Vous parliez peu de politique, surtout à cette époque très politisée, avec vos auteurs.
Ça dépend avec qui, aussi avec Pierre Vidal-Naquet, très souvent, mais avec...
Claude Simon, par exemple,
oui,
quelqu'un
Simon
que la politique
aussi
a toujours intéressé.
Oui, bien sûr, avec Claude Simon aussi, mais aussi avec Alain Robbe-Grille, même avec Samuel Beckett, qui pourtant, comme étranger, était un peu à l'écart, mais qui, sur ces questions-là, était évidemment sur les mêmes longueurs d'onde que... la plupart de mes amis, en effet.
On imagine mal Samuel Beckett se prononçant ou s'engageant, bien qu'il ait été résistant de manière très importante, mais dans des problèmes politiques.
Ben, si, vous venez de le dire, en effet, il l'a été, alors qu'il n'était pas du tout obligé. Comme Irlandais, il était neutre. Alors vraiment, si quelqu'un pouvait se passer de faire de la résistance, c'était un Irlandais en France. C'était même très dangereux. Il a évité de peu la déportation. Ses amis l'ont été. La plupart des gens du réseau l'ont été. Déportés, ils sont parvenus de déportation. Non, Sam était quelqu'un qui, je dirais que j'allais dire comme moi, il faut pas exagérer, c'est moi qui suis un petit peu comme lui, mais qui pensons que il y a des choses pour lesquelles on est fait, qu'on fait plus ou moins bien, mais que d'autres ne feront pas. Et puis, je veux dire, comment. J'avais la chance d'être l'éditeur de Beckett, par exemple, en 1960, et je me disais, c'est un privilège formidable de pouvoir exercer ce métier d'éditeur en France, dans ce siècle, avec cette relative prospérité économique, mais surtout cette grande liberté que nous avions et qui faisait de la France, et qui fait toujours de la France, une relative oasis dans le monde. Enfin, la France et quelques autres pays, mais pas très nombreux. Donc, quand on a la chance, quand on est privilégié à ce point, on se doit, me semble-t-il, de défendre ces privilèges quand ils sont mis en question par un régime ou par des gens qui, eux, ne sont pas des partisans de la liberté. Et c'était ce qui était en train de poindre au moment de la guerre d'Algérie. Ce qui était en cause, c'était la liberté. Et la liberté, pour moi, c'est peut-être au premier rang celle de publier des ouvrages de littérature.
Mais à l'origine, si je puis dire, votre sensibilité politique ou votre intérêt pour la politique était enraciné dans des convictions héritées de votre famille?
Bon, c'est-à-dire, vous savez, moi, je veux pas ramener ma fraise encore, mais bon, j'étais dans le maquis à 18 ans, je veux dire, j'ai eu la chance là aussi d'en terminer avec la vie militaire à 20 ans et donc de pouvoir entrer aux éditions de Minuit très jeune. Mais bon, c'est évident que la question ne s'est jamais posée pour moi, évidemment, pendant la guerre. C'était très facile, d'ailleurs. On n'avait pas besoin d'être très...
Pendant la guerre, c'était pas si facile. Certains ont plutôt été collaborateurs ou attentistes. Ouais, tout le monde n'allait pas dans le maquis à 18 ans.
Oui, mais enfin, moi, j'étais juif, de toute façon. Donc, j'avais pas le choix, de toute façon. Et puis, bon, c'est des choses qui sont... enfin bon, je ne discute pas. Pour moi, en tout cas, ça ne posait pas de problème. Par contre, je me rappelle très bien qu'au moment de la libération de Castres, nous avons fait avec mes camarades du maquis, nous nous sommes dit, Bon, maintenant, la situation claire se termine. Maintenant, les ennuis commencent, si je puis dire. Et qu'on savait bien qu'on n'aurait jamais, on ne serait jamais dans une situation aussi manichéiste qu'on a été pendant la guerre. Mais on l'a été aussi à un moment quand il s'agissait de torture. Ça, là, il n'y a pas de problème. Sur les autres questions, il y en a des quantités. Sur la question de la Yougoslavie, sur la question de la loi Fallou, sur la question, que sais-je, il y a énormément de questions qui, d'une part, sont complexes et qui, d'autre part, ne requiert pas en effet une intervention d'une maison d'édition comme la nôtre. Mais j'espère bien n'avoir plus jamais à intervenir sur ce plan, je vous le dis très franchement. Si je devais le faire, ce serait vraiment que la situation quand même le requérait, et notamment que les autres ne pourraient pas le faire à ma place, et mieux.
Jérôme Lindon, donc, on va revenir au maquis. Quand on est maquisard pendant la guerre, on est obligé de se battre.
Oui. Oui,
en principe. Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui est voué à se battre.
Ça, je sais qu'un de mes pires souvenirs, c'est en effet un incident qui a été considéré comme glorieux à l'époque. C'était l'attaque d'un train allemand en août 1944, donc à la fin de la guerre, qui allait de Mazamet à Castres. Bon, toute la nuit, nous avons tiré sur ce train qui tirait sur nous, mais comme ils avaient des canons qui tiraient au-dessus de nos têtes, on courait pas, enfin, on se rendait pas compte sur le moment, mais on courait pas autant de risques qu'eux, puisqu'eux, ils étaient tout à fait exposés à nos fusils mitrailleurs. Et quand le matin, je peux vous dire, le commandant du train s'est rendu et que dans le wagon sur lequel j'avais tiré, qui était une plateforme sur laquelle il y avait ce canon de DCA, il y avait trois cadavres de garçons de mon âge qui étaient surtout toute pas nazis et dont les parents apprendraient la mort quelques jours après, ou quelques mois, je ne sais pas. Bon. Non, non seulement on n'éprouve aucune jouissance, enfin, une horrible gêne, quoi.
Un sentiment d'absurdité.
Oui, d'horreur. Bon, de tuer quelqu'un, quelles que soient les circonstances, on ne tue pas Hitler dans ces cas-là. On tue, je vous dis, un malheureux garçon de 18 ans qui est mobilisé malgré lui et qui peut-être pense exactement les mêmes choses sur vous, sur la torture, sur la liberté.
Est-ce que c'est une chose, par exemple, dont vous avez parlé avec Claude Simon, qui lui avait connu la guerre d'Espagne et la défaite française?
Oui, on n'a pas vraiment parlé de ça avec Claude. La guerre d'Espagne, il l'a pas connue comme combattant exactement. Il accompagnait des transports d'armes, je crois, mais enfin, il ne s'est pas battu avec un fusil pendant la guerre d'Espagne. Et puis pendant la guerre, bon, bah si, il en a parlé, en effet, mais dans tous les récits de Claude, on ne voit jamais le personnage qu'il incarne tirer sur les autres et encore moins les tuer. Vous savez, c'est tuer quelqu'un, même si on n'est pas sûr que ce soit vous-même qui l'avez tué, on se rend compte rétrospectivement que c'est ce qu'on a cherché à faire. C'est inexcusable, quoi qu'il arrive, même si on ne peut pas faire autrement.
Il semblerait aussi que vous n'ayez jamais été particulièrement fasciné par le communisme, même à l'époque où beaucoup d'intellectuels, non, beaucoup de personnes engagées étaient proches.
Mais je n'ai jamais non plus été un anticommuniste dans l'âme non plus. Enfin, je veux dire, j'ai toujours été en relation avec des communistes, en tout cas. Mais en effet, à aucun moment de ma vie, je n'ai envisagé d'appartenir au Parti communiste, effectivement. Il y a d'autres choses. Vous savez, je me suis jamais vraiment engagé non plus dans l'appareil politique, quel qu'il soit, et qu'il s'agisse d'un autre parti de gauche. J'étais un peu au PSU pendant très peu de temps, jusqu'à la guerre d'Algérie.
Et puis, à l'époque, le PSU était vraiment un tout petit parti.
Tout petit, oui. Enfin, je n'ai pas été sioniste non plus, on me l'a quelquefois reproché.
Vous auriez dû être sioniste?
Bah oui, en principe, oui, enfin, vous comprenez, non seulement j'ai pas été sioniste, mais il m'est arrivé, il y a déjà pas mal d'années de ça, d'être très sensible à la lutte des Palestiniens, ce qui est pire que de ne pas être sioniste.
Oui, parce que voilà, j'allais le rappeler, ce sont même les éditions de Minuit qui, très longtemps et très tôt, ont publié, par exemple, les Cahiers palestiniens, qui étaient
la revue d'études palestiniennes.
Un lieu d'expression d'intellectuels palestiniens, souvent anti-israéliens.
Non, pas anti-israélien. Si vous lisez la revue, il n'y a pratiquement jamais eu quoi que ce soit qui soit en soi, enfin, en tout cas, antisémite, certainement pas. Et ça a toujours été une revue d'un très haut niveau. Mais bon, bah, les Palestiniens étaient les victimes. Vous savez, il y a un texte, probablement, je ne pourrais même pas vous en donner la référence, mais il y a un texte du Talmud qu'une fois quelqu'un m'a lu ou m'a dit, qui est celui-ci. Quand un méchant persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Quand un méchant persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté. Quand un juste persécute un juste, Dieu est du côté du persécuté. Et quand un juste persécute un méchant, Dieu est du côté du persécuté.
C'est un peu votre ligne de conduite.
C'est quelque chose que je crois profondément vrai, c'est comme ça que je ressens les choses.
Oui, la difficulté, c'est en effet de ne pas être dupe, de ne pas être victime de cette sorte d'engagement.
Je ne prêche pas la moindre croisade, hein, je veux dire, je pense ça pour moi, c'est comme ça que je le ressens maintenant, je comprends très bien que d'autres puissent avoir d'autres idées sur la question. Mais...
Alors, parmi aussi les engagements que vous avez eus, là c'est un peu inattendu, un peu différent, parce que quand on regarde votre petite notice dans le Ouzou, on voit que vous êtes président directeur général d'édition de Minuit depuis 1948. C'est une carrière brève mais éloquente. Et puis aussi, la seule chose que vous signaliez, c'est que vous êtes au comité pour la langue française.
C'est pas moi qui l'ai signalé, d'ailleurs, c'est eux, parce que je veux dire, ils doivent recevoir des informations directes. Moi,
je me suis dit, est-ce que ce serait quelque chose dont vous êtes plus fier que d'autres? C'est peut-être dans le haut comité pour la langue française?
Absolument pas. C'est Michel Rocard qui m'avait demandé de faire partie de ce comité. J'y étais tout à fait opposé, parce que je pense qu'on n'y fait rien d'intéressant dans ces comités. Et puis, que je n'ai pas le temps s'il y avait des choses intéressantes à faire, j'ai pas le temps d'y consacrer. Il a insisté. Bon, j'ai donc fait partie de ce comité. Et à mon grand étonnement, on a renouvelé mon mandat avec la nouvelle majorité. Je suis toujours aussi inefficace et aussi nul dans ce comité. Et en effet, je ne sais pas pourquoi on me fait figurer.
Mais alors, la langue française ne vous est donc pas chère?
Si, elle m'est chère, mais je ne vois pas pourquoi je militerais dans un haut comité pour la langue française. Ou d'une part, je ne suis sans doute pas un homme de comité et de commission, et d'autre part, je crois que d'une façon générale, les comités et les commissions ne peuvent pas faire grand-chose. Et j'aime autant faire dans ma petite cellule les choses que je crois utiles et qui, en tout cas, se manifestent concrètement par des réalisations que d'aller discourir, même de façon avec des gens tout à fait remarquables et sur d'excellents sujets, sans que ça aboutisse généralement à quoi que ce soit.
Vous n'avez pas du tout l'association donc que la langue française mérite des mesures d'urgence?
Ah non, la langue française mérite qu'il y ait grands écrivains pour la défendre. Voilà, je crois que c'est la meilleure façon de défendre la langue française, c'est d'être un grand écrivain et pour un éditeur de le publier.
Alors, au long de votre carrière aussi, vous avez toujours édité des livres peu chers, de très grande qualité, comme on le sait, peu chers, beaucoup moins de livres de poche. Il semble que vous n'aimiez pas beaucoup les livres de poche. Et vous avez toujours eu dans l'édition une attitude relativement critique pour les grandes machines commerciales.
Oui, en tout cas, non, mais là encore, je ne juge pas les autres. Mais pour les éditions de Minuit, c'est évident que si, par exemple, aujourd'hui, si nous avions vendu tous nos titres au fur et à mesure à des collections de poche que nous aurions sûrement très bien pu faire, les éditions de Minuit auraient un petit catalogue d'ouvrages probablement très difficile à vendre et par là même, elles pourraient probablement même pas continuer d'exister et par conséquent de publier de nouveaux livres. Actuellement, je pense que si les éditions de Minuit peuvent se permettre, par exemple, de publier des livres à la rentrée prochaine, des livres difficiles qui ne se vendront pas forcément, c'est grâce au fait que nous pouvons compenser ces ventes réduites par des ventes régulières d'ouvrages que nous n'avons pas vendus en collection de poche et pour lesquels nous continuons à verser des droits d'auteur normaux. Car c'est une des choses qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que les collections de poche comportent des droits d'auteur très, très peu élevés. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut considérer qu'une grande majorité des auteurs qui sont passés en poche, comme on dit, y ont perdu, au moins en droit d'auteur.
Ils gagnent en notoriété ou en diffusion?
Oui, quelquefois, pas toujours. Y en a vraiment qui sont perdants sur tous les tableaux, d'autres qui sont gagnants sur tous les tableaux, mais dans l'ensemble, je continue de penser, j'ai eu l'occasion d'en parler récemment avec Pierre Assouline, qui avait fait un éditorial où il disait que le livre de poche était l'avenir du livre, et je lui disais, je ne sais pas si c'est l'avenir du livre, mais en tout cas, je suis sûr que ce n'est pas l'avenir de la création, et que c'est même un trait en soi, le phénomène livre de poche, il n'est pas le seul, est un des facteurs qui compromet la possibilité pour les éditeurs de continuer de publier des jeunes écrivains. Je vous ai remarqué que, alors que dans la peinture, plus un peintre est connu, plus il est vendu cher, dans la littérature, c'est l'inverse. Plus un écrivain est connu, plus il est vendu bon marché. Ce qui veut dire que la concurrence est très redoutable pour de jeunes écrivains qui non seulement ont affaire à des confrères de grande notoriété, mais en plus des confrères de grande notoriété qui sont vendus 3 fois ou 4 fois moins cher qu'eux. Et que c'est un des facteurs qui compromet en effet très sérieusement actuellement la possibilité tout simplement de sortir des livres de jeunes écrivains.
Est-ce que vous êtes un éditeur qui permet à ces auteurs de vivre ou qui essaye de les faire vivre? Parce que on sait que les droits d'auteur rapportent fort peu, sauf quelques cas.
Oui, il y en a quand même quelques-uns qui... Moi, non, c'est un des vrais problèmes. Vous savez, pendant un siècle ou deux, la littérature a été écrite par des gens qui avaient les moyens, comme on dit. Ils avaient des rentes, ou ils avaient des terres, ou ils avaient une fortune personnelle. Au XIXe siècle, des écrivains qui ont vécu de leur plume, les grands écrivains, ils se comptent sur les doigts des deux mains en France. Bon, aujourd'hui, et c'est un grand progrès démocratique, beaucoup de gens envisagent d'écrire qui n'ont pas de terre ni de fortune. Et c'est vrai qu'il y a là une contradiction dans les termes, parce que c'est vrai que les grands écrivains, bon, si Flaubert, si Proust n'avaient pas eu d'autres moyens, ben, ils n'auraient pas pu écrire, ou en tout cas, ils seraient morts de faim, hein, assez rapidement. Donc, c'est un problème qui est très difficile à résoudre, et pour lequel je n'ai pas une solution, hein, définitive. On essaye de bricoler. Alors, le Centre National des Lettres est une chose, il y a beaucoup de fondations maintenant, il y a une forme de mécénat, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce n'est pas forcément les écrivains, les meilleurs écrivains qui se débrouillent le mieux dans ce système.
Ce sont les écrivains qui doivent se débrouiller, ou c'est vous qui, de temps en temps, dans certains cas, vous dites « je peux donner un coup de pouce à tel ou tel en le recommandant pour telle fondation ?»
Oui, bien sûr, en principe, vous savez, comme nous publions très peu de livres, je constate que la plupart des écrivains qui ont été publiés aux éditions de Nuit, quand ils font acte de candidature, on considère leur production comme un élément favorable. Non, c'est pas à peine d'envoyer une lettre de recommandation. Le fait de publier un écrivain, pour moi, c'est la lettre de recommandation, si je puis dire. C'est la couverture minuit qu'il est. Bien sûr, on essaye de faire ce qu'on peut, mais encore une fois, c'est du bricolage, parce qu'il n'y a pas un système. Bon, dans le temps, quand un écrivain n'entrait pas dans la catégorie que j'ai décrite, qui avait une fortune personnelle, bon, il vivait de briques et de brocs et de mélasse, comme on dit dans Alice. Il ne se mariait pas, et que s'il se mariait, il n'avait pas d'enfant, etc. Maintenant, c'est vrai, et là encore, on ne peut considérer ça que comme un progrès, mais je vois de jeunes écrivains dont les livres se vendent à 3 ou 4 000 exemplaires, ce qui veut dire des droits d'auteur de quelques milliers de francs par an, se marier, avoir des enfants, plusieurs enfants, famille nombreuse, etc. Et effectivement, il y a là une contradiction, enfin je veux dire un paradoxe très difficile à régler, hein. Bon, cela dit, chaque écrivain est d'abord un homme ou une femme qui prend ses décisions à la fois pour sa vie personnelle et pour sa vie intellectuelle et littéraire. Et puis je ne veux pas non plus m'en mêler.
Jérôme Lindon s'entretenait avec Jean-Maurice de Montrémy. Réalisation Marie-André Armineau.
Cet entretien avec Jérôme Lindon a été diffusé la première fois, le 19 octobre 1994, sur France Culture. À suivre. Vous pouvez le télécharger et le réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. à voix nue.